Alors, pendant toute la louange, je me suis dit, mais Thierry, tu as donné déjà toute ma prédication, je ne sais pas ce que je vais dire. Nicolas qui vient et qui encore ajoute une couche, donc je ne sais pas vraiment si vous allez avoir quelque chose de spécial. Ok. Donc je disais que il n'y a rien dans ma prédication qui soit nouveau. Donc ne vous attendez pas à quelque chose d'aussi spécial parce que la louange et puis toute l'histoire que Nicolas a déjà relatée, ça se retrouve dans ma prédication comme si on s'était vu. Mais c'est aussi ça l'action du Saint-Esprit. J'ai intitulé le thème de ce matin, qui est ce bébé de Noël? Alors je vous pose la question et j'attends une réponse. Qui est ce bébé de Noël? Emmanuel, le fils de Dieu. Et quel est le nom spécifique que nous, on connaît dans notre société d'aujourd'hui? Jésus. Alors, la deuxième question, qui est Jésus-Christ pour toi? Ça, c'est la question sur laquelle nous allons méditer. On va aller point par point. J'ai pratiquement 7 à 8 points et je dois garder un œil sur la montre. Donc, on est parti. Le premier point que j'aimerais qu'on se souvienne dans cette période de Noël. Nous sommes au premier dimanche de l'Avent. Et cette période, nous devons nous rappeler que ce bébé que nous célébrons année après année, et on n'est jamais fatigué, on n'a jamais eu de monotonie. Chaque année est assez spéciale, non? Alors, sachez que c'est parce que c'est un bébé extraordinaire. Un bébé extraordinaire pour des êtres humains ordinaires, vous et moi. Et nous voyons cela dans le premier chapitre de Matthieu, le chapitre 1. Quand vous prenez les premiers 17 versets, ça vous parle de la généalogie. Il y a eu une fois où j'ai fait une prédication sur cette généalogie et je me suis donné le luxe cette année de vous laisser comme devoir de maison, d'aller lire la première partie. Moi, je m'occupe de la seconde partie, mais la première partie, c'est votre devoir de maison. À lire la généalogie et vous verrez pourquoi. Toute une histoire de qui a donné naissance à qui et ainsi de suite. Mais nous allons nous focaliser sur la deuxième partie. Donc je vais commencer à lire à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ce bébé est extraordinaire. Parce que c'est un bébé qui est conçu par l'action du Saint-Esprit. Et nous devons nous en rappeler. Ce n'est pas un bébé qui est conçu comme vous et moi par l'union d'un homme et d'une femme, mais c'est par l'action du Saint-Esprit avec une femme, une jeune fille qui n'a jamais connu de relation sexuelle. Le deuxième point dont nous devons nous rappeler, cette naissance, la naissance de ce bébé, a été prédit 8 siècles avant. Nicolas venait de parler de Michée, et là c'est Ésaïe qui va aussi aborder cette même naissance. Nous continuons la lecture qui dit que elle mettra, c'est-à-dire la Vierge, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et j'ai été très content quand je suis rentré dans la salle ce matin de retrouver cette décoration avec l'inscription « Dieu avec nous ». Et voilà comment le Saint-Esprit travaille. Ceux-là, je ne sais même pas qui a fait la décoration. Et le message que j'apporte ce matin, c'est vraiment focalisé sur ça. La louange que Nicolas, Thierry et son groupe a apporté ce matin, tout est axé sur les actions de ce bébé. Troisième point, ce bébé de Noël, il est ton sauveur. Et le texte nous dit, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Joseph, ça c'est la conversation que Joseph a eue avec l'ange, et ça c'est tout ce que l'ange lui a dit, puisqu'il méditait secrètement, il n'a pas dit à quelqu'un qu'il va rompre avec cette fille. Mais Dieu étant Dieu, il sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Tu es assis là ce matin, Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Dieu connaît tes défis, Dieu connaît mes défis, Dieu connaît mes difficultés, Dieu connaît tout ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce qui est ton défi? Qu'est-ce qui te décourage ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton regard fixé sur ce bébé que nous célébrons dans ce mois de décembre? La Bible nous dit qu'à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Moi, je voudrais bien m'attarder sur cette dernière partie. On me dit que Joseph, il prie sa femme. Déjà, il reconnaît que c'est sa femme. Mais il n'y a pas de relation conjugale jusqu'à la naissance. La raison pour laquelle je tiens à aborder cet aspect, parce que les relations conjugales posent beaucoup de problèmes dans les couples. Et Joseph nous donne un exemple bien concret ici. Il a honoré, il a respecté la femme en sachant que l'enfant que Marie porte, c'est le sauveur, c'est son sauveur, même si lui, il est le père adoptif. Et il a respecté cette intimité. Il a respecté la sainteté de Jésus de sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté. L'auteur n'a pas mis ce détail-là pour rien. Déjà, ce détail nous est donné, mais malgré ça, il y a des gens quand même qui vont jusqu'à douter de la véracité de ce qui est de la conception de Jésus. Imaginez-vous s'il n'y avait pas ce détail. Quatrième point. Le nom de ce bébé révèle sa puissance. Et dans l'un des chants que Thierry et son groupe a chanté, ça parle de la puissance. Le nom Emmanuel, en hébreu, ça se lit Immanuel. Immanuel. C'est ce qui donne la signification Dieu avec nous. Et la transcription grecque, c'est ce qui nous donne le nom Jésus. L'Éternel sauve, l'Éternel délivre. L'Éternel sauve parce qu'il est avec nous. Il délivre parce qu'il est là, donc sa présence. Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose, pourquoi donner la signification du nom? On aurait pu juste dire, il s'appela Jésus et puis c'est tout. Mais ils ont ajouté Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et venant d'un contexte africain, dans ma tribu en Côte d'Ivoire, souvent, il y a de ces noms qui, quand tu entends le nom, tu sais que c'est vraiment un nom à problème. Et ce qui fait que ma mère biologique, elle a eu un tel nom. Et quand elle s'est convertie à Christ, elle nous a dit de ne jamais donner ce nom à un de ses petits-enfants. Je n'avais jamais su ça. Et quand mon fils est né, le nom que j'ai donné, elle était très contente. Quand ma fille est née, le nom que j'ai donné, je n'ai pas donné le nom de ma mère, mais j'ai donné un nom qui me rappelle d'elle. Et quand je lui ai dit pourquoi je ne voulais pas donner son nom direct, elle m'a dit, mais c'est comme si le Seigneur même t'a parlé, parce que je n'ai jamais voulu que ce nom-là soit donné à un de mes petits-enfants. Donc ceci pour vous dire à quel point la signification d'un nom est une forme de prophétie. Donc faisons attention, je ne sais pas comment ça se passe dans le contexte occidental. Si vous donnez des noms parce que c'est joli, mais essayez de creuser un peu, qu'est-ce que ça signifie? Ce bébé est l'incarnation d'une double royauté. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on sache. Du point de vue physique et du point de vue aussi spirituel. Le texte nous dit Joseph, descendant de David, n'ait pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Donc, dans ce passage-là, on voit le côté physique, humain, et le côté spirituel. Et Esaïe, il va dire alors, écoutez donc, membre de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Parce que le peuple se plaignait. Ils attendaient en vain l'arrivée du Messie. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Rejeter le mal et choisir le bien. Et ce qui se passe très souvent dans les périodes de Noël, c'est dans ces périodes qu'il y a le plus d'accidents, par exemple. Je me rappelle quand j'habitais à Lausanne, le pont Bessières, généralement à Noël, était toujours gardé. Pourquoi? Sachez que c'est pendant les fêtes, souvent, que Satan il est plus à l'œuvre. Le texte nous dit que la dynastie de David, donc quand on regarde la définition du mot dynastie, c'est une succession de souverains d'une famille. Quand on prend la famille Windsor en Angleterre, La reine Elisabeth a donné la suite à Charles et Charles va donner la suite à William. Ça, c'est la dynastie Windsor. Dans le cas de Jésus, c'est le roi David. Donc Jésus est d'une lignée royale dans tous les sens du terme. Humainement parlant aussi bien que spirituellement parlant. Puisque le texte précédent nous dit que c'est l'action du Saint-Esprit. Sixième point. Ce bébé Jésus, c'est un soldat roi qui a utilisé l'armure dont parle Éphésiens 6. Je suis conscient qu'on est à Noël et on peut se dire, mais on ne va pas parler quand même de l'armure du soldat. Mais je me suis donné ce luxe ce matin. Parce que je veux qu'on fasse le lien entre la période de Noël et toutes les œuvres qui se passent souvent pendant ces périodes et comment nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons nous munir, comment nous devons nous protéger, comment nous devons nous préparer pour aller contre ces choses. Éphésiens 6, à partir du verset 10, nous dit ceci. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Tous ces éléments, vous pouvez relier, c'est-à-dire les manœuvres du diable, ça c'est la toiture. Et sous ça, vous avez toutes ces autres puissances. Puissance de ce monde des ténèbres, les autorités de ce monde des ténèbres, les souverains de ce monde des ténèbres, l'esprit du mal de ce monde des ténèbres, et tout ça dans les lieux célestes. Donc, ce n'est pas des choses visibles. Je ne veux faire peur à personne, mais c'est des réalités qu'on a tendance à ne pas trop y penser. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Quand on regarde tous ces éléments, j'ai pris le soin de souligner vérité, justice, annoncer l'évangile de paix et la foi. On va revenir là-dessus. Faites bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites à tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Ceci me donne, pour résumer un peu, toute l'armure dont Éphésiens 6 parle et dont nous devons nous munir dans cette période de l'Avent. D'un côté, on a l'armure physique. Toutes ces choses, ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque, épée. Les soldats d'aujourd'hui, ils les ont, non? Et vous voyez qu'à chaque élément, il y a le côté spirituel, l'armure spirituelle qui est là. C'est-à-dire, il y a une analogie. L'un, on illustre l'aspect physique avec l'aspect spirituel. Ce n'est pas anodin. Ce qui m'a intrigué en préparant ce tableau, c'est de voir que le casque et l'épée sont deux éléments qui ont la même arme spirituelle. La parole de Dieu. La persévérance et la prière et supplication sont deux éléments que le soldat chrétien doit aussi ajouter à cette liste. Et ce n'est pas fait de façon anodine. Rentrons encore un peu plus dans les détails. Voici tous les éléments dont nos soldats, depuis l'époque romaine, même bien avant ça, jusqu'à nos jours. Mais pour le chrétien, il doit ajouter prière et supplication. Et les prières, tout le temps, ça répond à deux questions. Quand et où? Quand on te dit tout le temps, est-ce que tu es dans un seul endroit tout le temps? Tout le temps, ça inclut lieu et temps. Par l'esprit, ça répond à qui? Par qui? Avec qui? Avec et comment? Ça répond à la question de la persévérance, la notion de la persévérance. Prier avec persévérance, ça répond à la question comment? Comment est-ce qu'on doit prier? Avec persévérance. Pour qui? Pour tous les saints. Voici des éléments que nous sommes appelés à utiliser en cette période de l'Avent, les uns pour les autres. Revenons à l'armure du soldat. Là, c'est un soldat romain et là, c'est un soldat de notre époque d'aujourd'hui. Et nous allons encore rentrer plus en détail. Quand on prend le casque, qu'est-ce qui a changé? J'ai besoin un peu d'interaction ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a changé? Je veux entendre des réponses. Pardon? Ok. Mais est-ce que la fonction a changé? La cuirasse, prenons la cuirasse. Qu'est-ce qui a changé? La forme, la couleur, et puis il y a quelqu'un qui a dit la matière. La fonction, est-ce que la fonction a changé? Prenons les chaussures. Ça, c'est à l'époque romaine. Un soldat romain, et là, c'est de nos jours. Qu'est-ce qui a changé? Et la fonction, est-ce que la fonction a changé? Prenons l'épée. Je me suis permis de mettre les cercles rouges pour vous aider à plus focaliser. Là, on a un épée et là, on a quoi? Qu'est-ce qui a changé? On est passé de l'épée à un fusil. Est-ce que la fonction a changé? Parce que la fonction ici de l'épée, c'était de tuer. Le fusil, sa fonction, c'est de tuer. Donc, la forme a changé, mais la fonction n'a pas changé. Là, c'était pour, quand on, à l'époque romaine, quand on, un soldat utilisait ce, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Comment on appelle ça? Une massue. Et c'était pour faire quoi? Assommer, faire exploser la tête. C'est pas ce que les grenades font? Vous êtes d'accord avec moi? Et on est passé du corps à corps à la distance, où on utilise maintenant ce genre d'engin. Et là, c'était au niveau terrestre. Ça, c'est au niveau terrestre. Et à un moment donné, on a trouvé que non, ça ne suffit plus. Il faut passer, il faut aussi contrôler l'air. D'où l'invention des avions et l'usage des avions et hélicoptères, n'est-ce pas? Mais est-ce que la fonction a changé? Et on est même passé encore à une échelle plus haut, où il faut permettre à ces avions de pouvoir envoyer les missiles, avec un pilote à l'intérieur. Là, c'est un pilote, là. Le pilote, il est là. Et de nos jours, est-ce que les pilotes ils vont encore de cette même façon sur le champ de bataille? Aujourd'hui, c'est les drones. Est-ce que la fonction a changé? Les journalistes photographes, autrefois, ils allaient sur les champs de bataille. Aujourd'hui, la caméra, c'est des drones qu'on utilise, non? On ne veut plus risquer la vie du photographe sur le terrain. On préfère envoyer un drone. Est-ce que la fonction a changé? Tout ça pour vous dire que l'armure fabriquée par l'être humain, il change tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi? L'armure fabriquée par l'être humain change tout le temps. Mais l'armure spirituelle de Dieu, il reste inchangé. Et ça, depuis la création. Je vais vous dire pourquoi. Avec Dieu, qu'est-ce qui n'a pas changé? Sa présence. La présence de Dieu, ça fait partie de l'armure. La présence de Dieu ne change pas. Et il va nous donner le verset 28, la toute dernière parole de Jésus. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu reste inchangeable. Sa parole, quand on prend sa parole, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc la parole de Dieu que nous détenons, la Bible, elle ne change pas. Son esprit, c'est le consolateur et le conseiller. Jean va nous dire, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Alors la question que je me pose, pourquoi pendant ces fêtes de Noël, souvent, nous les chrétiens, on est les plus désemparés? Est-ce qu'on a vraiment conscience de la présence et de la puissance de la parole de Dieu et de la présence de son Saint-Esprit avec nous? Est-ce qu'on est vraiment conscient de ça? Je ne veux blâmer personne, mais c'est des questions que moi aussi je me suis toujours posées. Dans mes périodes les plus difficiles, je dois constamment me rappeler que Dieu, il ne m'a pas abandonné. Il est là, malgré tout. Savez-vous comment Satan combat la foi chrétienne aujourd'hui? Tout ça, on revient à ce bébé de Noël. Hein. Je ne suis pas en train de tergiverser. C'est toujours dans le thème. Vous savez comment Satan combat la foi chrétienne? Il combat par le doute de la présence de Dieu dans nos vies. Il nous donne l'impression que Dieu, il n'est pas là, Dieu, il ne nous aime plus. Par le doute de la puissance de sa parole. On a parfois l'impression, mais est-ce que vraiment la Bible qui est là, la Bible que tu lis, est-ce que tu penses vraiment que c'est la vérité là? Est-ce que c'est vraiment vrai? Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Le doute. L'autre combat, le doute de la véracité de sa parole. Ce qui est écrit dans la parole, il nous amène à douter que c'est vrai. Le doute de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Très souvent, quand on a l'impression qu'on est trop seul, on a personne, il n'y a personne qui est avec nous, ça amène cela. Avec l'Esprit de Dieu, on doit pouvoir quand même se rappeler qu'on n'est pas tout seul. Pendant cette période de l'Avent, j'aimerais vous encourager à vous rappeler de mettre le doute de côté. Arrêtons de douter. De nos jours, l'Église est tournée en dérision. Vous savez pourquoi? Parce que tout est remis en question. Quand on regarde les médias aujourd'hui, hein, le clergé est aujourd'hui mis sur la sellette. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dérives. Et c'est à nous de nous positionner. Il est temps qu'on redore ce blason sali. Soyons les imitateurs de ce bébé Jésus que nous célébrons en décembre. Il a utilisé l'armure physique comme spirituelle. Il a utilisé la vérité, la justice. Il a aussi annoncé la bonne nouvelle autour de lui. Il avait foi en son Père qu'il a envoyé. Il a utilisé la parole de Dieu et il a persévéré. Et il a prié avec des supplications. Jésus a fait tout ça. Et nous sommes appelés à l'imiter. En conclusion, ma prière, je voudrais que... Il y a 4 points ici. Je suis déjà à l'avant-dernière slide et je vais finir bientôt. Il y a 4 points que j'aimerais utiliser comme forme de bénédiction. Et j'aimerais que, en tant qu'assemblée, à la fin de chaque point, que vous répondez « Amen ». Ça peut aller? Alors, que cette saison de Noël 2023 soit pour toi et ta famille une fête exceptionnelle où tu es plus que jamais conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Que tu sois plus que jamais conscient de la puissance, de la véracité de sa parole dans ta vie. Amen. Que tu sois plus que jamais conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie pour tous les jours. Amen. Et que tu sois doté de l'armure spirituelle de Jésus, l'armure de Éphésiens 6 que Jésus lui-même a utilisée pendant son ministère terrestre. Dernière question. Quel est l'état de ton armure spirituelle en cette période de Noël? Ce bébé que tu fêtes à Noël, il est un roi toujours présent. Il est un soldat. Le soldat qui a combattu et remporté la victoire pour toi. Il est le sauveur par sa parole et le protecteur par sa parole, parce qu'il a utilisé la parole de Dieu pour aussi combattre Satan et gagner la victoire. Et il est ton compagnon de tous les jours par la prière. Si seulement tu pries, si tu gardes cette communion avec lui par la prière, il est là. Et il est aussi ton conseiller par le Saint-Esprit. Alors, les 3 éléments dans cette page: la présence de Dieu, sa parole et son Saint-Esprit te permettent de communier avec lui en cette période de Noël. Que Dieu bénisse sa parole. À lui seul soit la gloire.